Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Boker Tov. Erev Tov. Ouais, je suis complètement perdu. Erev Tov, Boker Tov. Erev Tov à tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? On peut commencer? Oui, oui, non, non. Faites-moi juste un signe que vous êtes là. Et comme ça, on commence. On m'entend pas, Houston. Houston, we've got a problem. Ah non, mais Yaron, t'es là, mais t'es pas senior. Donc, d'abord, on m'entend? Oui, j'entends. Yovi. Yovi. Bon. Eh ben alors, on y va? On y va? Mais sauf que moi, j'avais une question à poser au senior. Voilà. Yofi. Donc, les amis, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez la paracha ou est-ce que vous voulez l'Akba Omer? Enfin, le Omer, l'Akba Omer, tout ça. C'est à vous de décider, mes amis. Première réponse. Le premier qui répond, c'est lui qui décide. Evelyne a dit paracha, ça sera donc paracha. Yala. Yaron, tu peux donc dès maintenant, voilà, bah, paracha, c'est réglé. Donc Yaron, tu peux donc dès maintenant te débrancher, te déconnecter, puisque je vais faire le même cours que j'ai donné ce matin. Donc, vu que tu as eu le cours ce matin, bah, tu n'es pas obligé de rester maintenant. Ou alors tu peux rester, hein, mais je redirai la même chose. Ça va pas? Asiala. On est lancé dans notre paracha, parachat Shavua, parachat Emor. Parachat Emor. Alors, la paracha de Emor, eh bien, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait là? Comment ça, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien oui, si le but du livre de Vayikra, c'est d'atteindre la dimension qui s'appelle Kedusha, eh bien, à ce moment-là, je tiens à dire qu'il n'y a pas besoin, puisque a priori, on est arrivé à l'état de Kedusha à la fin de la paracha précédente. À la fin de la paracha précédente, on parlait de Kedoshim. La paracha de Kedoshim, c'était la liste des choses qu'il fallait faire pour atteindre la Kedusha. Donc, a priori, bah, pourquoi est-ce qu'on a besoin de continuer? On aurait dû arrêter le livre de Vayikra après Kedoshim. Et voilà que maintenant, on continue avec Emor et ensuite Be'ar Bechukotai. Lama. Qu'est-ce qui nous manquait pour pouvoir véritablement atteindre la Kedusha? Eh bien, on va dire comme ça. Jusqu'à Emor, eh bien, nous avions les indications théoriques de comment on devient Kadosh. Emor, Be'ar et Bechukotai sont les indications pratiques de comment on devient Kadosh. C'est-à-dire, maintenant que j'ai tout le. J'ai reçu tout le syllabus jusqu'à Kedoshim, maintenant il faut que je mette en pratique. Comment je vais faire? Eh bien, comment je vais faire? On va se rendre compte qu'il y a trois piliers, vous les connaissez très bien, trois piliers qui vont me permettre d'être Kadosh. Je rappelle que être Kadosh, ça veut dire tout simplement pouvoir dialoguer quelque part avec Akadosh Baruch Hu. Nous a dit Dieu, Kedoshim Tiyu Ki Kadosh Ani. C'est-à-dire que Dieu est le seul à être Kadosh, il nous demande à nous de le rejoindre. Donc le but de la Kedusha, c'est d'avoir cette rencontre entre la créature et le créateur. Le problème, c'est que pour qu'il y ait rencontre, eh bien, nous avons besoin de trois piliers. On a déjà parlé souvent, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Le premier pilier, c'est l'identité de la rencontre. Ben oui, il faut qu'on... Alors, il y a Dieu et il faut qu'il y ait nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait Anashim Kedoshim pour arriver à la Kedusha. Anashim Kedoshim, et donc ceux qui vont remplir le rôle de Anashim Kedoshim, ça peut être soit nous, mais pour nous préparer à ce que nous, on soit au niveau, eh bien, on a mis en place des intermédiaires qui s'appellent les Kohanim. Et tout le début de la paracha de Emor, bah, nous parle des Kohanim, de toutes les lois relatives aux Kohanim. Mais ça ne suffit pas d'avoir des Anashim Kdoshim, il faut également avoir, eh bien, un moment de rencontre. Et c'est pour ça qu'il y a la deuxième partie de la paracha, des Zmanim Kdoshim. Et donc la deuxième partie de la paracha, c'est toute la liste des fêtes. Mais ça ne suffit pas d'avoir Anashim Kdoshim et Zmanim Kdoshim, il nous faut également un Makom Kadosh, un endroit pour que le rendez-vous puisse se faire. Et ça, c'est ce qu'on verra dans la paracha de Behar, qui est la Kdusha de Eretz Israël. Ok ? Donc, la paracha de Emor, en fait, nous parle de deux sujets principaux, les Kohanim et les Moadim. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Les Kohanim, Rabotai. Les Kohanim. Mais d'où ils sont Kohen ? Pourquoi ils sont devenus Kohanim ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ma synagogue, je fais monter un Kohen en numéro 1 à la Torah ? Il a fait quelque chose pour mériter ça ? Mais mec, c'est Shlak Dola. On connaît tous des Kohanim. On les aime beaucoup, nos Kohanim. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de monter en premier ? Alors, à l'époque du Beth Amikdash, je peux comprendre, puisque le Kohen est celui qui mange Bikdusha, qui est au Beth Amikdash. Donc, il a une relation privilégiée du fait qu'il est au Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, il n'est plus au Beth Amikdash. Monsieur Kohen, aujourd'hui, il vit comme tout le monde. Monsieur Kohen, il va travailler. Monsieur Kohen, bon, voilà, il a une vie qui est pareille que celle à Monsieur Lévi et celle à Monsieur Israël. Donc, pourquoi est-ce que je le mettrais sur un piédestal ? Le Rav Kook, qui était Kohen, il dit, effectivement, aujourd'hui, la Kehuna, c'est le Machou. Mais il dit, mais comme ça a été Machou Gadol, et que ça redeviendra Machou Gadol, alors, Ben Leben, on lui garde cette dimension de grandeur. Mais ça ne répond pas à la question première. Qu'est-ce qu'ils ont fait, même à l'époque, pour mériter d'être Anashim Kdoshim ? Eh bien, le début de la paracha, quand on lit le début de la paracha de Emor, eh bien, on entend quelque chose de très bizarre. Le début de la paracha de Emor nous dit comme ça, un verset, il va falloir essayer de percer son secret. Il y a marqué comme ça. « Vayomer Hashem el Moshe » Et Dieu a dit à Moshe. Jusque-là, tout va bien. « Emor el Kohanim bene Aaron » Dis au Kohanim, fils de Aaron, et tu leur diras qu'ils n'ont pas le droit de se rendre impurs à cause de quelqu'un qui meurt. C'est la première des listes de choses qu'ils ont fait, qu'ils doivent faire ou pas faire. Seulement, on peut se poser cette question. Deux secondes, je reprends le verset en français directement. Et Dieu dit à Moshe, dis aux Kohanim, les fils de Aaron, et tu leur diras blablabla. Bla, 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 bla. On nous dit deux fois que Moshe, il doit dire quelque chose au Kohanim. Et mort, ve'amarta. C'est, qu'est-ce qu'il faut leur dire dans le et mort? Ve'amarta, et tu leur diras, c'est toute la liste qui a marqué ensuite dans la paracha. Mais mazé et mort. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Bien, la réponse, elle est toute simple. Elle est ce qui a marqué, ben, juste après. Et mort est la Kohanim, deux points, ouvrez les guillemets. Bene Aaron. Voilà ce qu'il faut leur dire aux Kohanim. Vous êtes les Bene Aaron. Vous êtes les enfants de Aaron. Et c'est à ce titre-là que vous êtes des Kohanim. En d'autres termes, on doit leur dire, vous devez être digne de l'héritage qui est le vôtre. Pourquoi les Kohanim et Machou Gadol, même aujourd'hui? Parce qu'ils ont un héritage extraordinaire. Vous savez, Am Israël n'est pas tous Kohen, mais deviendra tous Kohen. Eh oui, puisque Vatem Tiouli Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Le but du peuple juif est de devenir Mamlechet Kohanim, de devenir une nation de prêtres, une nation sainte. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on deviendra tous Kohanim, donc il faut apprendre des Kohanim. Et donc de la même façon, un juif qui est né juif, il n'a rien fait pour ça. Il reçoit le mérite de ses pères. il reçoit l'héritage de ses pères, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. La Torah dit aux Kohanim aujourd'hui, vous héritez du fait que vous êtes les fils de Aaron. Soyez-en dignes. Qu'est-ce que ça veut dire, soyez-en dignes? Eh bien, ça veut dire que d'après la halakha, à l'époque du Beth Amikdash, il n'y a pas de débat. Ils bossent au Beth Amikdash. Mais aujourd'hui, d'après Shulchan Aruch, on n'est pas obligé de faire monter un Kohen en premier à la Torah s'il y a un Talmid Chacham et que le Kohen en question est à Maharet. C'est-à-dire, si le Kohen, il connaît pas l'hébreu, machin, il respecte pas la Torah, et ainsi de suite, et qu'il y a dans la synagogue, par contre, un Talmid Chacham, alors, eh bien, c'est le Talmid Chacham qui monte en premier, pas le Kohen. Vous allez me dire, mais personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Et j'ai envie de te dire, Nachon, personne ne fait ça. À ma connaissance, je crois qu'il n'y a que dans la synagogue du Rav Ovadia Yosef où c'est lui qui montait en premier. Ah oui, c'était le plus grand Talmid Chacham de l'histoire de sa synagogue. Donc c'est lui qui montait en premier. Mais de manière générale, dans le peuple juif, c'est à quoi tu lui fais honte? Tu fais honte à qui? À qui je fais honte? Evelyne, tu m'as balancé une bombe. À qui je fais honte? Evelyne, aide-nous. T'as lâché un truc énorme. À qui on fait honte? Bon, on va voir qu'est-ce que tu vas nous dire. Je suis en stand-by terrible. En tout cas, quoi qu'il en soit, avant que tu me dises de qui il s'agit, je suis très perturbé. En tout cas, avant que tu me dises de qui il s'agit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Kohen, pourquoi Am Israël a continué qu'à... Ah oui, non, mais là, Evelyne, si tu parles une langue que je ne comprends pas, ça va être compliqué. Tu lui fais honte qu'à... Ah, Jacques! Non, mais c'est bon. On a le droit de poser des questions aux ébécédaires. Les ébécédaires de poser des questions. Mais il faut juste que je comprenne les questions. Parce que si je ne comprends pas les questions, c'est dur. Bekitsour, le Kohen, la majorité du peuple juif, 99% des communautés, continue à faire monter M. Kohen en premier. Pourquoi? Benigoud la halakha. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on veut garder au Kohen sa grandeur d'antan, à savoir d'être le fils de... Ah, je ne fais pas monter. Ah, tu dis... Si on ne fait pas monter le Kohen en premier, tu lui fais honte. Bah, ça dépend. Tu lui fais honte si dans cette communauté, on a l'habitude de faire monter le Kohen en premier et que là, tout d'un coup, tu ne le fais pas. Mais si c'est une communauté où il est clair dès le départ que monte le Talmid Chacham ou le Kohen s'il est Talmid Chacham, bah, à ce moment-là, si tu le sais et que tu viens quand même prier dans cette communauté-là, bah, c'est que tu acceptes les règles de cette communauté. Il ne s'agit pas de tout chambouler sur le moment. Mais ce que je veux dire, c'est que le peuple juif, de manière générale, a décidé de garder au Kohanim cette grandeur qui ne dépend pas finalement d'eux, mais qui dépend de leurs ancêtres. Et mort et la Kohanim, dis-leur qu'ils sont les fils de Aaron et que c'est un héritage qu'il faut en être digne. C'est quoi donc cet héritage? Eh bien, faire le lien avec la Kedusha. Le Kohen, pour ce faire, eh bien, il y a plein de lois. Il a plein de lois qui ont toutes le même objectif. Faire en sorte qu'il vive une vie complètement idéale. C'est-à-dire une vie qui n'a pas de, on va dire, de contact avec les mashberim, avec les problèmes. On va voir dans la Torah, ici, on nous dit que le Kohen, il n'a pas le droit d'aller être en contact avec la mort. Alors, un Kohen normal pour les sept proches, oui, mais un Kohen Gadol pour personne, y compris son père et sa mère. Parce que le Kohen doit être l'idéal de la vie. De la même façon, eh bien, on va l'exempter de travailler. Ah oui, c'est difficile. Même si c'est pas interdit. Le Kohen a le droit, tout à fait, d'aller bosser. Là, il prendra 2 semaines de vacances sur son travail pendant les 2 semaines où il va au Beth Amikdash bosser. Mais c'est parce que c'est que 2 semaines par an, en fait, que le Kohen, il va bosser au Beth Amikdash. Tout le reste du temps, il peut bosser. Mais on lui dit, t'es pas obligé. De toute façon, au niveau Parnassa, t'es Mesoudar. Puisqu'on va te donner Trouma Touma Asrot. Donc, tu vas pouvoir te concentrer uniquement sur le lien avec Akadosh Baruch Hu. Pour faire le lien avec moi, évidemment. N'oublions pas une chose. Les Kohanim ne sont pas sur un piédestal, c'est-à-dire ne sont pas supérieurs au reste du peuple juif. Ah, pas du tout. Ils sont les serviteurs du reste du peuple juif. Et c'est complètement différent. Et donc, on va lui dire qu'il n'a pas le droit non plus de se marier avec une groucha, avec une divorcée. Parce que le divorce, ça montre un machber dans l'amour. Ça montre une brisure dans le lien qui donne la vie. Et donc, le Cohen, on veut qu'il soit plein de vitalité, qu'il n'ait absolument aucune cassure au niveau de sa relation avec Dieu. Je ne dis pas que ça marche tout le temps, mais c'est maïèche. La question qui va être posée, c'est de savoir s'il y a marloquette entre les deux, c'est-à-dire entre l'amour et la keuna, qui gagne. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit le Kohen est là pour faire le lien, le trait d'union avec la Kedusha. L'amour, c'est ce qui est censé donner la vie. Aval, ce qui donne la vie, c'est Kadosh. Eh bien, le Rav Shlomo Riskin nous a raconté, j'ai entendu ça de sa bouche, que lorsqu'il a pris ses fonctions de rabbin à New York, je sais pas, 2-3 ans plus tard, alors qu'il avait commencé à faire un travail énorme, eh bien, tout d'un coup, vient un jeune, il devait avoir, une bonne trentaine d'années, il vient le voir pour la première fois à la synagogue. Bon, il est venu. Il lui a parlé 5 minutes, le rave, il a compris que c'était un mec, mais perché de chez perché, très, 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 très loin. Et petit à petit, il a dressé un lien avec lui et pendant 2 ans, il l'a travaillé au corps, à coup d'invitation pour Shabbat, à coup de participation à plein d'activités. Au bout de 2 ans, le mec vient voir le rabbin, le Rav Riskin, et lui dit une phrase. Le Rav a pleuré. Il a dit, Arav, je vais me marier et j'ai trouvé une juive. Maintenant, c'était complètement inespéré parce qu'il avait toujours dit qu'il s'en fichait, pour lui, juif, pas juif, c'est pas du tout important. Et en l'occurrence, c'était vraiment pas important, mais il se trouve que, il a trouvé une fille, et il se trouve que la fille était juive. Donc il était très heureux, finalement, il lui a présenté la fille, et donc le Rav les a félicités, et le premier soir où ils sont venus tous les deux pour commencer à parler des préparations du mariage, il a demandé qu'on lui amène la ktouba des deux parents, ok. Et sauf qu'on a vu que, à ce moment-là, la fille, Mitbarer, qu'elle était divorcée. Et lui, bien qu'il ne le savait même pas, était Cohen. Il portait pas le nom de famille Cohen, parce que la famille avait changé de nom en arrivant aux États-Unis. Il s'appelait pas Cohen, mais sur la ktouba des parents, il y avait marqué Cohen. Et donc, il est Cohen. Et elle est divorcée. Et là, le Rav Riskin, il dit, je ne savais pas comment lui annoncer que je ne pourrais pas les marier. Je l'ai tellement saoulé pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je l'ai saoulé que c'est très important de pas se marier avec une non-juive et tout, machin. Finalement, il m'amène une juive, peut-être la seule qu'il a rencontrée dans sa vie, et je vais lui dire que c'est pas possible. Terrible. Terrible. Il dit, je savais pas quoi faire. Donc, j'ai été demandé à plus grand que moi. Il dit, j'ai amené le cas devant Rabbi Moshe Feinstein. Il a été amené le cas devant Rabbi Moshe Feinstein. Et Moshe lui a dit, OK, très bien, je vois la situation. Fais venir le garçon. Le garçon est venu. Il dit, est-ce que tes parents sont encore en vie? Il dit, ma mère est encore en vie, effectivement. Il dit, très bien. Il va falloir que tu l'appelles. Ok, appelle-la. Il l'appelle. Il dit, tu lui demandes où est-ce qu'elle a fait ses études. Le mec, il ne comprend pas. Il dit, ok, bon, il demande. Et la maman en question répond qu'elle a fait ses études dans l'université de New York. Ok. Quelles années? Non, en plein milieu des années 70. Ok. Dernière question. Demande à ta mère, est-ce qu'elle avait un appartement à l'extérieur du campus? Ou est-ce qu'elle dormait dans les appartements universitaires sur le campus. Il dit, j'ai dormi dans les appartements sur le campus. Et là, le Rav Moshe Feinstein, il dit, c'est bon, vous pouvez vous marier. Et il va expliquer au Rav Riskin que, années 70, New York, une femme célibataire non religieuse et complètement assimilée au niveau de son judaïsme, qui vit sur le campus, Chazaka au carré, qu'elle a eu des relations avec beaucoup de gens. C'est comme ça dans les années 70 des États-Unis. Donc, eh bien, le fait est que lorsqu'elle va s'unir à son mari plus tard, M. Cohen, eh bien, en fait, il se trouve qu'il n'aurait pas eu le droit de se marier avec cette dame-là. Ils se sont mariés quand même, mais ça veut dire que les enfants sont halalim, c'est-à-dire ne sont plus Cohen. Et donc, eh bien, il a dit, bah, puisqu'il n'est pas Cohen, il peut se marier avec sa copine. Sheyev et Mazal Tov Binyan Adead. Alors, au-delà de l'énormité de la responsabilité halakhique de Rav Moshe Feinstein sur une présomption de ce qui se passait dans les années 70, ça faut être un grand décisionnaire de la halakha pour prendre ce genre de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner la possibilité de donner la vie, ça passe avant la keuna. Nachon. Sha'alou et Hashela Azot, le Rav Moshe. Il a dit Nachon bizman she'en bet amigdash kayam. C'est-à-dire, à l'époque où il n'y a pas de Betamikdash, donner la vie, c'est plus important. À l'époque où il y a Betamikdash, le Kohen, il fait le trait d'union avec la vie. Donc, on n'aurait pas fait ça à l'époque du Betamikdash. Tout ça pour dire que le Kohen, son rôle, c'est d'être le fils de Aaron, qui, je le rappelle, je ne l'ai pas dit, qui était Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev et Abriot, Mkarvan la Torah. C'est-à-dire qu'il avait cette capacité d'être proche de tout le monde. Parce qu'il doit faire le lien avec tout le monde. Et ça, c'est une autre notion qu'on a dans notre paracha, sur M. Cohen. La notion de proximité. Vous savez, aujourd'hui, M. Cohen, à part monter à la Torah en premier, il ne fait pas grand-chose de Cohen. Birkat Kohanim de temps en temps, vite fait. On va dire qu'aujourd'hui, de manière générale, les rabbanim ont pris le rôle d'enseignement de Torah qu'avaient les Kohanim à l'époque. Donc on va dire que le Rav aujourd'hui, eh bien il a ce rôle de rattacher à la Kedusha, c'est-à-dire à la Torah, le peuple juif. Et il y a une loi qui est très similaire entre Kohanim à l'époque et rabbin aujourd'hui. Enfin, c'est pas vraiment une loi, enfin, c'est une loi pour le Kohen, mais pas pour les rabbins, je l'explique. La Torah me dit, on va repasser sur les habits du Kohen. Ah, bien fait, mal. Et quand on parle de ses habits, eh bien, on me dit une chose très importante, qu'il n'a pas le droit de garder ses habits de Kehuna à l'extérieur du Beth Amikdash. Lamalo. Il n'a pas le droit de se balader à l'extérieur du Beth Amikdash avec ses habits de Kohen, surtout pas le Kohen Gadol avec ses habits de Kohen Gadol. Pourquoi? Nous dit Rabbi Chaim de Volozhin, pour ne pas se la péter et pour ne pas commencer à sentir qu'il est au-delà de tout le monde. Ses habits sont les habits du service, il se passe au Beth Amikdash. C'est vrai qu'ils ont pour rôle d'en jeter. Alors, quand on voit dans la paracha de Tetzavé pourquoi on fait des habits comme ça au Kohen Gadol, il y a marqué les Chavod ou le Tifaret. C'est-à-dire que le but de ces habits-là, c'est que les gens ils regardent et disent oh, la folie. Mais il ne faut pas que le Kohen, lui, pense que parce qu'il a des beaux habits et trucs. Donc, quand il sort du Beth Amikdash, il remet des habits comme Monsieur Tout-le-Monde. Pourquoi je vous dis que c'est en rapport avec les rabbanim aujourd'hui? Vous savez, vous me connaissez bien, et je sais que pour vous, ça aurait l'effet inverse si jamais je faisais cela, mais il y a pas mal de gens qui me disent, d'année en année, on va dire que pour l'instant, Baruch Hashem, j'arrive à donner de plus en plus de shiurim, et donc les gens me disent, pas mal de gens me disent, gentiment, tu vois, mais que peut-être que faudrait penser à une autre garde-robe. Bon, eux, ils veulent que je m'habille en costume tout le temps pour faire sérieux. Je ne sais pas si Monique nous écoute, mais je ne sais pas comment elle me recevrait si je me baladais tout le temps en costume. Je ne sais pas comment moi-même je me recevrais Et en fait, eh bien, ça me fait penser à une Gemara qui est marquée dans le traité de Shabbat. On nous dit la chose suivante. Rabbané Bavel, la différence qu'ils avaient avec les Rabbané Eretz Israël, c'est que l'on dit à Gemara que Be Bavel, Arabanim Metsuyanim Bebigdehem. C'est-à-dire que, à Babylone, les rabbins, les Amoraïm, ils avaient des habits de rabbins. Genre, tu le voyais de loin, tu savais que c'était un rabbin. Alors que les rabbanés Eretz Israël, nous dit la Gemara, ils sont habillés comme le vendeur du jouk. Lama, qui shmam, slicha, maspik aleem. Parce qu'ils n'ont pas besoin de fioritures, leur nom les précède, et les gens, ils savent très bien qui ils sont, et donc ils n'ont pas besoin de s'habiller de manière particulière pour être respectés en tant que rabbin. Mais en vrai, on a tous grandi en Chutz La'aretz. On ne va pas se mentir. C'est vrai que quand tu vois deux personnes qui vont donner deux cours, l'un est habillé, classe, costume, cravate, beau chapeau, belle barbe bien taillée. Et l'autre, il est avec une chemise à carreaux, un pantalon beige, des sandales et des chaussettes. Avant même qu'ils aient commencé à parler, je peux t'assurer que le mec à sandales, il va dire des trucs de ouf comparé au mec en costume. Mais avant qu'ils aient commencé à parler, il y a quand même déjà 2-0 pour le mec en costume. Seulement, ben, ces habits d'apparat ben, sont aussi une barrière. Sont aussi une barrière. Je me rappelle que quand j'ai fait la formation de rabbin Chaliar, finalement, on n'est pas parti en Shlichut, en Chutz La'aretz, pour plein de raisons, et c'est pas plus mal, mais quand on a fait la Shlichut, la formation, c'est ça. Alors, ils nous ont expliqué que l'un des grands problèmes du rabbin, quand il serait en Shlichut, et avec toute la meilleure volonté du monde, Zemayesh, c'est qu'il est tout seul. C'est-à-dire, il n'y a personne qui sera vraiment son copain. Il n'aura pas vraiment d'amis, le rabbin. Pourquoi ? Parce qu'il est le rabbin. Il y aura des gens avec qui il s'entraînera très bien et tout ça, mais ce ne sera pas son pote. Parce que les gens mettent une barrière avec monsieur le rabbin. Alors que Be'eretz Israël, Arav, ou Rav im Koulam, le Rav, le rabbin, il peut avoir plein de potes qui ne sont pas rabbins. Parce que c'est dans la vie. C'est une kdusha qui est à l'intérieur de la vie elle-même. Le rabbin Ashkenazi Manitou disait tout le temps, la pire chose qui puisse arriver à un rabbin, c'est qu'il se prenne pour un rabbin. Genre, ne crois pas que c'est toi qui es... Rien du tout. Tu n'es là que pour faire le trait d'union. C'était vrai pour les Kohanim, c'est vrai pour le rabbin plus tard. Le rôle des Anashim Kdoshim, c'est de permettre à tout le peuple juif de devenir Anashim Kdoshim. Ben, une fois qu'on a dit ça, on est bon. On a le premier pilier mis en place, il faut arriver au deuxième. Et le deuxième, c'est quoi ? Eh bien, on a dit, ce sont Zmanim Kdoshim, des temps de rencontre. Et ça, c'est le chapitre Kaf Gimel qui est en fait toute la liste des Moadim, toute la liste des fêtes. En commençant par Pessah, évidemment, jusqu'à Yom HaKippurim, jusqu'à Shmini Atzeret, jusqu'à après Sukkot, la liste de toutes les fêtes qui sont d'Oraïta, des fêtes de la Torah. Femeod, Kol Besader. Alors quel est le problème ? C'est qu'on les connaît toutes ces fêtes. Tout va bien. Seulement, ces fêtes d'abord nous explique une chose. La première d'entre elles, c'est Shabbat. Shabbat, et ensuite, on va dans le Yom Tov, donc de Pessah jusqu'à Shmini Atzeret. A priori, ça s'arrête là. Seulement, quand on arrive à la fin des versets de la liste des fêtes, quand on arrive à la fin des versets de la liste des fêtes, Rabotai, eh bien, on se rend compte d'un verset qui conclut, mais qui est bizarre dans son langage. C'est quoi la fin des versets des fêtes ? Eh bien, regardez, je vous lis le verset. Donc, on est à le dernier verset du chapitre Kaf Gimel. Nous dit la chose suivante. Vayedaber Moshe et Moade Hashem el Bnei Israël. Et Moshe a énoncé, parlé des fêtes de Dieu au Bnei Israël. Donc ça, je vais vous voir dans ce verset, un verset incroyable, qui dirait la chose suivante. À ce moment-là, Moshe a reçu la force d'Akadosh Baruch Hu et l'a transmise au peuple juif de dire qu'on peut être générateur de nouvelles fêtes après la Torah. Ce qu'on va appeler Mo'adim de Rabbanan. Et oui, on a les Mo'adim de Oraita, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Sukkot. Il y a 5 Mo'adim de Oraita. Shmini Atzeret, 6e, si jamais tu comptes Shmini Atzeret séparément de Sukkot. Mais Moshe vient nous dire que nous avons la possibilité de créer des Mo'adim des Rabbanan. Ah bon? C'est pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme Mo'adim des Rabbanan? Eh bien, regardez, juste après ce verset-là, donc commence le chapitre Kafdalet, dans lequel, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout d'un coup, on nous parle de trucs qui, a priori, n'ont rien à voir. On nous parle d'abord quelques versets, comme ça, pour être exact, on nous parle 5 versets. Non, 4 versets, c'est 4 versets. On nous parle de l'allumage de la menorah. Qu'en rapport? Ensuite, on nous parle encore une fois de... je compte. Et là, on nous parle après de 5 versets. On nous parle de comment on fait le pain du Beth Amikdash, le Chemapanim, sur la table des pains. On vient de nous faire la liste de toutes les fêtes. Et après, on nous donne un verset de conclusion qui dit « Moshe a donné la possibilité au peuple juif de créer des fêtes plus tard. » Et la Torah me parle de l'allumage de la menorah et de la shulcham le Chemapanim. De là, nos sages vont nous expliquer qu'il y a un remez évident d'une fête qui viendra après, qui sera centralisée autour de la menorah, et une fête qui sera centralisée autour des festins et du shefa, de l'abondance, autour du pain. Nous, vous avez compris qu'on parle ici de Hanouka et de Pourim. Pas shoot. Hanouka et Pourim. Seulement, la paracha ne s'arrête pas là. La paracha termine en nous racontant une histoire. Et on nous parle de quoi? On nous parle de cet homme qui s'appelle Hamekalel. Un homme très particulier qui est fils d'une juive, mais fils d'un égyptien. C'est-à-dire, pour comprendre de quoi on parle, fils juif, mais en même temps, un fils de la culture occidentale mondiale. Oui, l'Égypte, c'est pas l'Occident, mais pour l'époque, l'Égypte, c'est le monde. Donc, je traduis en mode aujourd'hui. Donc il est complètement méboulbal dans son identité. Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est européen? On ne sait pas. Veum Mekalel. Il a un problème avec les rabbins, en l'occurrence Moshe, parce que Moshe a tué son père. Parce que le père de cet homme-là, cet Égyptien en question, c'était l'Égyptien que Moshe a tué. Il a un problème avec l'autorité rabbinique. Et donc, puisque les rabbins sont ceux qui représentent la parole de Dieu, eh bien, on met Kalel est à Kadosh Baruch Hu. Nous dit ici le natif de Vologine qu'il s'agit de la 3e fête des Rabbanan chez Od Tavo. Il reprend les paroles du Sfat Emet. C'est incroyable de voir des chassidim et des mitnagdim parler pareil. Mais il dit que si la menorah et le Shulchan, c'était pour Hanouka et Purim, eh bien, Ben Aïcha Israélite à Mekalel, c'est pour une 3e fête qui viendra plus tard. Maintenant, il est Mekalel, le mec. Il n'y a rien de plus chutzpédique, de chutzpa, que la Klala. Ce serait donc une fête qui serait instaurée par des gens qui ont eu un problème d'identité, qui ont un problème avec l'autorité rabbinique et qui sont remplis de chutzpa. Pashut, Gemara Masechet Sota nous dit Beikvot Meshicha Chutzpa Yazge, qu'à l'époque messianique, eh bien la Chutzpa va jouer des heures supplémentaires. En d'autres termes, les amis, eh bien cette Chutzpa là, de quoi s'agit-il? Vous avez bien compris, Zeyom Ha'atzmaout. Une fête complètement basée sur la Chutzpa. contre l'avis des rabbins, fait par des gens qui étaient fondamentalement juifs, mais imprégnés de culture européenne. Me direz-vous, ok, très bien, mais il y a encore une fête. Aïe, Yom Yerushalayim. Vous avez bien compris, on va pas rater Yom Yerushalayim. Mais Yom Yerushalayim, c'est par rapport à Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah, c'est Yom Amlachat Melachim, Amlachat Hashem, et sa correspondance des Rabbanan, eh bien, c'est lorsqu'on revient Be'ir Amlachat Hashem, Be'ir Amelucha. Eh oui, Yom Ha'atzmaout fait référence à Pessah, l'indépendance, l'indépendance. Shavuot, ben Shavuot, nous, Matem Omrim, Shavuot, le don de la Torah écrite, fait référence à Purim. On a accepté à, bon, il n'en reste plus qu'un, il n'en reste plus beaucoup, la Menorah, bien évidemment, la Menorah de Hanouka, 8 jours, de Vadaï. Et donc, Rosh Hashanah, c'est Keneged Yom Ha'atzmaout, Keneged Yom Yerushalayim. Ah, qu'est-ce qui se passe avec Yom Kippour? Yom HaKippourim a besoin de son, de sa compère. Nachon. Yom HaKippourim, t'inquiète pas, il y a une autre fête qui doit arriver. Il y a une autre fête qui doit arriver, qui sera en fait la fête de fin d'année. J'ai envie de te dire, la fête de fin de journée. Parce que vous savez qu'on est toujours dans le septième jour et qu'il faut le terminer, ce septième jour, à un moment donné. Eh bien, la fête qu'on mettra en place sera la fête des Rabbanan par rapport à Yom HaKippourim. En d'autres termes, eh bien, la paracha de Emor vient nous dire que grâce à ces Anashim Kdoshim, ces Kohanim, et grâce à ces Zmanim Kdoshim, eh bien, tout le projet mis en place dans la paracha de Kedoshim, eh bien, marche. Marche à condition qu'on ait les piliers pour le réaliser. Seulement, on a dit, on ne peut pas s'arrêter là, il nous manque un troisième pilier, vous avez compris, c'est le pilier de Makom, et c'est à cela qu'on fait référence dans la paracha de Behar. Dans la paracha de Behar, mal à Asot, pour comprendre de quoi il s'agit, eh bien, il va falloir attendre une semaine. D'accord, il va falloir attendre une semaine. Mais je ne vous laisse pas comme ça. Parce que certes, j'ai fini ce que j'avais à vous dire là maintenant sur la paracha, mais je vais vous dire un autre truc. Ah bah oui, ce Shabbat est un Shabbat très particulier, puisque Shabbat, c'est Pessah Sheni. Eh bah oui. Donc, puisqu'on parle de fête, je ne pouvais pas ne pas parler un petit peu de Pessah Sheni. D'abord, ce Shabbat, Naoug, Minag, de manger des matzot, puisque c'est Pessah Sheni. Donc, c'est pas mal de manger des matzot. Tu n'es pas obligé de ne pas manger de challah. Tu peux manger et de la challah et de la matzah. Mais ça peut le faire. Mais Pessah Sheni rentre complètement en droite ligne de ce qu'on vient d'expliquer. Puisque Pessah Sheni est une fête d'Eoraïta, mais qui vient de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas une fête qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas marquée là dans la liste. Elle n'est pas marquée dans la liste. Eh non, on la trouvera dans la paracha, dans le Sefer Bamidbar, Bichlal. Paracha de Baalotra. Parce que Pessah Sheni, c'est le moment où Am Israël s'est réveillé à la volonté de se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Et Pessah Sheni, c'est le moment où on comprend que ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous, c'est qu'on prenne les rênes du dévoilement de la Kedusha, qu'on réussisse à devenir Kedoshim Tiyu. C'est à Pessah Sheni que tout a commencé. Et donc, c'est une fête qui est fondamentalement importante. Et ce n'est pas du tout anodin que ce Pessah Sheni soit donc en Iyar, puisque Iyar, c'est le mois où toutes les fêtes du mois de Iyar, c'est le réveil national du peuple d'Israël. Pessah Sheni, on a dit, Yom Ha'atzmaout, Yom Yerushalayim, et l'Akba Omer. Et l'Akba Omer qui arrive, Mitkarev, Meod, Meod, l'Akba Omer, on en reparlera à un autre moment. Les amis, pour des raisons de Zoom, de mes enfants et de Mincha, eh bien, on est obligé d'arrêter là maintenant. La semaine prochaine, on va essayer de trouver une horaire qui est meilleure parce que les enfants et leur Zoom, c'est insupportable. Donc, tant qu'ils sont en Zoom, je suis assez limité parce qu'il paraît que l'école, c'est plus important. Moi, je sais pas. Mais enfin bon. Donc, on arrête là aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine. À bientôt, les amis.